Allô, c'est Sylvain dans ta radio. Le Prix du Gros est fier de commanditer et surtout de féliciter Michel Villeneuve pour l'ensemble de sa carrière en Formule 1.
Catherine Le Matin. Voici Michel Villeneuve. Que la mort ici se
lève. Michel!
Allô!
Michel, je suis allé me coucher trop de bonheur, j'étais fatigué, j'ai tout manqué.
Hey, c'était tout un show. C'était... Mais là, je vais t'aviser que le livreur de Jean Coutu est passé chez Weber et Price. Parce qu'ils ont pas. J'étais allé porter des antibiotiques parce que là, c'est toute une grippe qu'ils ont pognée hier par Snefchikov qui l'a. qui les a battus. Écoute, cette semaine, c'est pas la semaine de chez Weber, hein?
Ben, c'est pas sa meilleure, mettons.
C'est pas sa meilleure. Écoute, en plus de la grippe, ils ont une tasse de café gratis, mais je pense pas que c'était du Tim Horton.
Ben, hier, Michel, honnêtement, là, sur le but, là, il s'est fait passer un sapin à peu près comme un pee-wee.
Oui, puis Price en a donné. Tu sais, on oublie que le Canadien a gagné hier dans un match ultra-offensif, mais le but qui s'est passé, alors que personne devant lui a lancé du poignet du côté du bloqueur, là, à 40 pieds, là, au pelail.
Ouais.
C'est pas supposé, mais en tout cas, l'important, c'est qu'on a eu tout un show.
Oui, absolument.
C'est ce que je te disais hier, les Hurricanes, c'est pas une équipe qui joue ses bandes, hein. C'est une équipe qui joue dans le milieu de l'Est.
Ouais.
Et leurs propriétaires devaient être contents, maudits. Hier, ils ont marqué des buts. Ils disent, moi, j'aime autant perdre 6-4 que de perdre 2-1, mais il a perdu dans un festival offensif. Mais on s'est rendu compte que leur défensive était pas meilleure que celle du Canadien. Puis là, on va faire Kulak ne fait plus d'affaires comme partenaire à chez Weber. On se lance à la recherche d'un gars qui pourrait aider Weber. C'était une autre affaire, mais hier, pendant que je surveillais le match, j'écris toujours des notes pour notre conversation du matin. Puis là, écoute, là, j'ai de l'air fou, mais il faut que je te lise.
Voici.
Ça, ce que j'ai écrit. Deux Québécois, Hudon et Deslauriers, hors de l'alignement. Les deux victimes d'injustice. Deslauriers qui a été le seul qui a eu besoin de prendre une douche au Minnesota. Tu sais, on en a parlé le lendemain. Et Hudon qui est sacrifié pour PK qui n'amène rien à l'équipe.
Il a marqué hier.
Il a bien joué. Il a été rapide. Puis là, on nous dit, l'explication qu'on nous sert moi, je trouve que, là, qu'est-ce qui va arriver avec Charles Hudon? On le voit plus. Il participe au réchauffement d'avant-match puis il se déshabille. On nous a dit, qu'il est surtout fait pour remplacer lui quelqu'un dans le top 9. Il peut pas jouer sur le quatrième trio. OK, j'accepte ça parce que là, c'est Deslauriers, c'est PK, il y a une rotation sur le quatrième trio, puis on cherche à trouver le meilleur de ces gars-là. Chapu,
ouais.
Pas de problème.
Okay.
Mais les Conan, là, depuis une secousse, là, il arrive à rien. Il multiplie les erreurs en défensive. Il est pas capable. Il est moins bon compteur que Réjean Wall. Il peut pas se carrer dans une porte de grange ouverte. Alors, je me suis dit, comment ça que lui, on sort pas de l'alignement? C'est quand même pas un joueur établi dans la Ligue nationale. Il aurait peut-être besoin d'un petit séjour de 2-3 parties dans les estrades. Regarder tout ça. Se reconcentrer. Puis qu'on donne une autre chance à Hudon. Pantoute.
Je sais pas pourquoi, Michel.
Il est intouchable.
Mais c'était comme à l'époque avec Plécanette. Tu disais, voyons, tout le monde est sorti de l'alignement, puis lui, il fait rien, mais on le garde. Je comprends pas, Michel.
Non plus, je comprends pas.
T'as pas d'explication?
Pas. Si j'en avais une, peut-être que je serais le coach ou le directeur général de cette équipe-là.
Il y a ça.
Mais Hudon, on le traite injustement.
Je suis d'accord.
Puis lorsqu'on retire le grand Deslauriers qui se fend derrière à chaque partie, on le traite injustement.
Ouais.
Il va falloir, à un moment donné, quelqu'un la brosse derrière. PK, c'est sûr qu'on veut peut-être justifier le fait qu'on lui a donné un contrat à un volet, qu'on est allé chercher, qu'on pensait qu'il briserait tout, pas tout. Alors que Hudon, c'est un gars repêché, développé par le Canadien, puis on dirait qu'on a lancé la serviette, qu'il est pas capable de percer le top 9, c'est pas un joueur de quatrième trio. Hey! L'année passée, c'est un des seuls qui, à la fin de la saison, pouvait dire qu'il était pas gêné d'aller au centre d'achat pour aller faire son épicerie.
Pas mal ça.
Parce qu'il travaillait à tous les jours puis il apportait quelque chose.
Oui.
En tout cas, j'ai de la misère à comprendre, mais le Canadien a gagné.
Moi, c'est ça.
On va voir ce que ça va donner, mais l'important, c'est qu'on a eu un bon show. Hier soir, écoute, là, j'étais entre le match de hockey puis le match de baseball, football, c'était incroyable.
Là, je me disais, voyons, de quel baseball t'as écouté, là?
Non, j'ai pas
écouté. Parce que là, on va parler.
Mais on va en parler de baseball.
Mais là, c'est
écoute,
clair.
Le dossier, je pense pas que ce soit le fruit du hasard que l'étude de marché qui a été préparé par le groupe de M. Bronfman sort le lendemain de l'état de la situation à Tampa, puis des déclarations du commissaire du baseball, Rob Manfred. Ce qui m'intéresse, puis je sais pas si les gens de Québec vont prendre ça, puis ils vont renvoyer ça sur le bureau de Batman. L'étude démontre que Montréal, c'est le marché le plus fort parmi ceux qui sont potentiels pour une expansion ou une relocalisation. Ils sont meilleurs que Charlotte, Portland, Las Vegas, San Antonio et Monterrey au Mexique. Montréal se classe au premier rang pour la population, le marché de télévision, pour le nombre de sociétés, en plus d'arriver deuxième pour le revenu médian des ménages. Le marché de publicité de Montréal, c'est le même marché de publicité que celui de Québec. Parce que c'est de la publicité nationale qu'on cherche. Puis les codes d'écoute de la télévision. Ce qu'il faut comprendre, ce que les gens de la Ligue nationale ne comprennent pas, c'est que la province de Québec, là, dans le fond, c'est une grande ville. C'est une grande ville avec deux grands quartiers. Montréal et Québec. Un quartier qui est plus gros, un qui est plus petit, mais c'est la même affaire. On mange toute la même affaire. Tout le monde s'habille chez Simons. Tout le monde va chez... Tu sais, c'est toute la même patente.
Okay.
Fait que si on était capable de comprendre ça, mais au baseball, t'as vu, ils sont prêts. Un stade de 32 000 places au centre-ville avec 68, 100 loges, 1 400 places de club. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plusieurs commentateurs qui disent ce matin que dans la question du stade hier, il n'y a pas été question de stade couvert. On ne l'a pas dit comme ça. On dit le stade doit être facilement accessible pour les transports en commun, qu'il puisse avoir une atmosphère sociale, un design qui s'intègre bien au style architectural local et être une destination accessible toute l'année.
Ça va avec.
Accessible toute l'année. Si je comprends, c'est que tu as besoin d'un toit.
Ça, c'est clair. Mais question pour toi, Michel. Moi, je veux bien, là. Mais ça avait été soulevé la dernière fois. Ton stade au centre-ville, là, tu le construis où? Parce qu'au centre-ville, ça commence à être assez pacté. Je m'excuse de le dire comme ça.
La ville et le ville-drapeau, hier, ils ont déjà réservé des terrains dans le bassin Peel. Okay. Là où le nouveau REM, on va installer une nouvelle station de métro qui va connecter avec le fameux train là, qui va faire le tour de la ville de Montréal. Donc, en faisant ça, ça devient un incontournable. Il y a de la place dans Griffintown. C'est là qu'il y a le niveau centre-ville. Et s'il y a un métro, tu es capable d'aller au baseball de n'importe où facilement en sortant du bureau. C'est là qu'on veut l'installer. Et je regarde, pour une fois, on a une idée des gens qui sont dans le fameux groupe de M. Bronfman.
Ouais.
Il y a une coupe de portefeuille là, ma petite fille.
Oui, absolument.
C'est Pierre Boivin qui dirige tout ça.
Ouais.
Il y a Alain Bouchard, Mitch Garber, Éric Boyko et Stéphane Crétier.
Mais il y en a là-dedans que je connais pas. Alain Bouchard, évidemment, des couche-tards, ça va.
Mitch Garber, c'était Gildan.
Mais Éric Boyko, qui est Éric Boyko?
C'est lui de M. Stingray.
Stingray,
tu sais, la musique en ligne?
Ah, OK. Ah bon, OK. Et Stéphane Crétier, il y a quoi, lui?
Lui, c'est Garda.
Garda, ah bon, OK. Non, il y en a que je connaissais pas.
Là, on parle de milliardaires, puis il y a William Jagger. Je sais pas si c'est le fils de Mme Jagger, j'ai aucune idée.
Je le savais tellement que t'allais me sortir, ça.
Mais non, puis Richard Epstein. Non, mais là, tu parles pas là de Kate au coin de la rue, là. Tu parles des gens qui sont milliardaires.
Oh, oui, 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 oui. Mais est-ce qu'ils sont tous milliardaires, Michel?
Ils ont tous.
Mitch Garber, est milliardaire?
Mitch Garber, oui. C'est Éric Boyko qui est peut-être pas milliardaire, mais il va l'être.
Ah bon, OK. OK, tu vois, je ne savais pas qu'ils étaient tous milliardaires. OK.
Écoute, là, fait qu'à ce moment-là, là, parce que souvent dans les aventures précédentes, il y a des gens qui se sont engagés, qui avaient de l'argent, mais il y a la différence entre riche et être ultra riche.
Ouais, oui, on est...
Et dans le sport professionnel, pour avoir des concessions aujourd'hui, être riche, là, même si tu as 20 millions, là, honnêtement, t'as pas d'affaires là, t'es un qui a été.
Non, dans un cas comme ça, ton exemple...
C'est pas ça, là. Tu parles, là, de minimum de fortune personnelle de 500 millions de dollars en montant.
Il faut, Michel, il faut. Là, ça fait crédible, ça fait sérieux. Écoute, on se croise les doigts. Moi, je rêve à ça encore, mais on
verra. Oui, parce qu'écoute, là, contrairement à Québec, ben c'est vrai qu'on était un petit peu énervé il y a quelques années lorsqu'il y a eu le Nordic Nation puis toutes ces affaires-là, les planètes étaient alignées. Mais il y a une personne qui était au centre, c'était une entreprise, c'était Québécois.
Ouais.
Là, on vient de... Là, il y a 5-6 personnes qui ont des entreprises qui sont beaucoup plus grandes que Québécois, qui sont là, qui appuient le projet. Tu sais, ils sont déjà organisés, ça fait longtemps qu'ils en parlent. Ils ont dit, quand ça va être le temps, on sera prêts.
C'est ça.
force est d'admettre que si le temps arrive, mais ben, ils sont prêts.
Ils sont prêts, absolument. Hey, Michel.
Ils sont. Oui.
Ben, c'est ça. Je te souhaite une belle fin de semaine.
Ah, je pensais que tu avais d'autres choses à me dire.
Ben non, mais j'aurais d'autres choses.
Est-ce que tu appuies. Penses-tu que José Canseco va devenir le porte-parole, le grand boss de la Maison-Blanche? Innocent. Il a soumis sa candidature. Il cherche un job. Et je vais être, moi, je vais remplacer le chief of staff, moi, en Maison-Blanche, oui. Capable de faire ça.
Il n'est pas
capable d'attacher ses bottines.
Hey, je te souhaite une belle fin de semaine. On s'en parle lundi.
Ah, une grosse fin de semaine de sport, puis on s'en reparle lundi.
Absolument. Salut, bon week-end.
Bye-bye.
Bye-bye. Michel Villeneuve, tous les jours, à 7h40.